J'ai entendu la nouvelle à la radio.
Lui, il dit les vraies affaires. Jusqu'à midi, le nouveau show 100% Marinaro. BPM Sport.
On est de retour, 10h34, avec Nilton George, notre collaborateur soccer. Nilton, comment tu vas?
Ça va bien, toi?
Ça va très, très bien. Il y a une équipe au Canada qui a envoyé un communiqué hier concernant les tarifs entre les États-Unis et le Canada. Je sais que tu as vu ça. Si tu peux expliquer aux gens, c'est qui a écrit cette communiqué-là, puis c'est quoi qu'ils ont écrit?
Ouais, ils sont un peu sur la vague politique. Là. C'est tout le temps un jeu dangereux là, d'utiliser la politique pour faire un peu de communication et de marketing. Alors, le club de la CPL, Forge à Hamilton, un club qu'à Montréal, on connaît bien, qu'on affronte régulièrement en championnat canadien, ils ont fait un petit communiqué en disant qu'ils faisaient une espèce de déclaration officielle de boycott envers les équipes américaines. Là. C'est un petit clin d'œil en disant que eux autres aussi, ils allaient contribuer à l'effort de la guerre commerciale en disant qu'ils éviteraient tout match contre les équipes américaines. Bon. C'est rigolo. Ça peut peut-être dire aussi qu'ils ont une certaine réussite parce qu'ils ne se rendent pas plus loin en championnat pour affronter encore CACAF des équipes américaines. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de l'ambiance et de l'atmosphère actuelle. Chacun essaie de tirer avantage ou pas cette situation.
Puis dans leur ligue, il faut dire que c'est la Ligue canadienne. Ils jouent juste contre des équipes canadiennes. Donc, c'est vraiment pour jouer contre... dans des tournois de CONCACAF ou des matchs amicaux, si tu veux. OK, on va parler du CF Montréal, eux qui vont affronter les Whitecaps de Vancouver samedi soir à Vancouver. Ce ne serait pas facile parce que, d'après ce qu'on a vu l'an passé, Nilton, et à date cette saison, me semble qu'il n'y a pas de doute que la meilleure équipe au Canada, c'est les Whitecaps. Toi, t'en penses quoi exactement?
Ça fait quelques saisons là, que, entre autres, Vancouver réclame un peu plus d'exposure des médias, pas seulement canadiens, mais aussi américains. Vancouver vit une situation un peu particulière avec la vente officielle de son club en cherchant des acheteurs, mais au niveau du terrain, c'est une équipe tellement intéressante. Là. Hier, ils étaient en CONCACAF. Ils affrontaient Monterrey, un club mexicain, un très bon club mexicain. À Vancouver, ils ont réussi, malgré une rotation, pratiquement la moitié de l'équipe, c'était des joueurs de banc, ils ont réussi à faire un match nul. Régulièrement, Vancouver fait de bons résultats, ils ont un peu plus de difficultés en séries éliminatoires, mais en championnat, c'est une équipe très, très intéressante. C'est le genre d'équipe que Montréal aimerait aussi, parce qu'il n'y a peut-être pas de gros noms du côté de Vancouver, mais quand on regarde l'effectif de Vancouver, c'est pas seulement... Des gambles à gauche, à droite, comme Montréal peut faire. Il ne faut pas oublier que je comprends que Montréal, la philosophie pour une santé économique, c'est un club de formation, mais club de formation, ça ne veut pas nécessairement dire un club de pauvres. Là. Ça veut dire qu'on dépense sur certains types de joueurs. Quand David Beckham est arrivé en MLS, la MLS a créé un statut, le joueur d'épée, pour pouvoir attirer ses vedettes. Il y a 10 ans de ça, la MLS avait fait une étude pour comprendre un peu pourquoi, face aux équipes mexicaine, on n'était pas capable nécessairement de rivaliser, on n'était pas capable d'aller chercher ce fameux premier trophée que Seattle a réussi à avoir de la Ligue des champions. Pourquoi la MLS tirait toujours de l'arrière versus les grosses équipes mexicaines? Et en gros, ce qu'on avait identifié comme enjeu principal, c'était pas nécessairement de rajouter un quatrième et un cinquième DP. Ce qui manquait aux effectifs de la MLS, c'était les joueurs tout juste en dessous des joueurs DP, les joueurs TAM, des joueurs d'une certaine qualité, pas nécessairement des super vedettes, mais des joueurs de qualité pour faire face à cette situation-là où on ne peut pas juste prendre des risques. Vancouver, de son côté, ils n'ont pas seulement 2 DP, pour l'instant, ils ont 2 joueurs U22, mais ils ont aussi 6 joueurs TAM. Avec ça, tu es capable d'avoir un 11 partant de qualité. Ouais. Tu as 10 joueurs qui vont gagner beaucoup de salaire, qui ont nécessité beaucoup d'argent pour aller les chercher, et c'est des valeurs sûres. Là. À Montréal, on a qui? On a Vrioni comme DP, qui est blessé. On a 3 joueurs U22, pour l'instant, les 3 ne sont pas disponibles, 2 blessés puis 1 qui est en cours. Et on a 3 joueurs TAM, 2 qui restent sur le banc avec Opoku et Yankov, et le dernier qu'on vient de faire son acquisition, Osu. Après, quand on voit le 11 partant de semaine en semaine, c'est sûr que ça fait juste 2 semaines, mais quand on voit le 11 partant, on fait « ish, ça sera pas facile encore cette semaine ». Et on faut pas être hyper étonné des résultats. On avait peut-être une chance d'aller chercher quelque chose au Minnesota, ça n'a pas fonctionné, mais contre Vancouver, en fin de semaine, ça va être très, très compliqué.
Oui, la cellule Bologne, parce que, évidemment, t'as entendu, Olivier Renard était en studio avec moi il y a un couple de jours de ça, lui qui est ici à Montréal cette semaine, puis je lui ai posé la question parce que on entend dernièrement beaucoup que le CF Montréal veut être beaucoup plus impliqué avec Bologne, la synergie avec Bologne. Mmh. Qu'est-ce que tu as pensé de cette conversation-là? Lui qui a dit, je m'excuse, là, mais j'ai signé environ une dizaine de joueurs de Bologne. Il faut dire que Olivier Renard a signé les joueurs qu'il fallait signer de Bologne, mais honnêtement, si le joueur n'était pas bon, il ne voulait pas. Qu'est-ce que tu penses de cette fameuse question de la synergie avec Bologne? Puis qu'est-ce que ça, la cellule rapporte en ce moment?
Ce qui est intéressant avec l'entrevue d'Olivier Renard, c'est d'amener une certaine balance là, sur le narratif qui a été imposé. C'est normal, là, c'est le droit du club. Depuis certains mois, on martèle sur le fait que maintenant, il y a une synergie avec Bologne, comme si elle n'existait pas avant. Elle existait avant, là, on a eu plein de joueurs. La synergie avec Bologne date de la première journée de la naissance de ce club en MLS avec Marco Di Vaio. Il y a toujours eu des joueurs de Bologne. Malheureusement, avant, c'était un peu les joueurs... J'hésite à dire rejet parce que c'est un peu méchant et c'est exagéré.
C'était pas mal de rejet, là.
C'est les joueurs qui faisaient plus vraiment affaire puis qu'on leur proposait à Montréal si ça fait du sens ou pas. Dans certains cas, il a été rejeté. Olivier Renard a rejeté aussi des joueurs de Bologne. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Ce qu'on ne sait pas, c'est les joueurs qui ont été rejetés par Bologne quand Olivier Renard était intéressé. Olivier Renard a proposé des gars, a proposé des joueurs. On demandait à la cellule de Bologne que est-ce qu'on pourrait aller chercher tel gars? Pouvez-vous évaluer tel gars pour la MLS? Il y a eu des rejets aussi du nouveau Bologne. Ça, c'est sûr que, d'un, Olivier Renard veut pas commencer à évoquer des noms parce que, d'un, il a signé des papiers, puis c'est pas vraiment un objectif utile pour lui. Montréal va pas dire, ah, by the way, ce joueur-là qui se retrouve présentement en Bundesliga puis qui marque des buts, ben la cellule de Bologne l'a refusé, a dit qu'il était pas assez bon pour la MLS. Il faut, pour ce sujet-là, il faut avoir toutes les histoires d'un bord et de l'autre. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les joueurs, les premiers joueurs de Bologne, dès qu'Olivier Renard est parti, les premiers qui ont été identifiés, c'est pas nécessairement des gros succès. Autant on critiquait les Bjorn Johnson et Ahmed Hamdi, et on critique présentement les Yankov. Mais là, les joueurs de Bologne, là, les premiers, c'est Tom Pearce.
Oui.
Bougaï qui est tombé troisième. Tom Pearce qui, visiblement, n'est pas capable nécessairement de commencer des matchs. Puis quand il commence des matchs, il est soit mal utilisé ou il est seulement unidimensionnel. Là,
deux joueurs de banc.
Exactement. Mais rapidement, on va commencer à dire, la cellule de Bologne, pour l'instant, votre évaluation de la MLS, elle reste à prouver.
Oui. Écoute, en terminant, en 30 secondes, si tu peux, la chose qu'Olivier Renard a dit qui a plus capté ton attention.
Moi, c'est vraiment le fait que présentement, on explique que la famille Saputo et ses fils ont pris charge de cette équipe-là. Et que Olivier Renard, ce qu'il essaye de nous expliquer, c'est que cette situation-là, elle est seulement maintenant visible et connue de tous, et c'est correct, mais que ça faisait quand même plusieurs mois que cette situation-là existait, qu'il y avait nécessairement une espèce de conflit, de partage de pouvoir qui a fait en sorte que le clash est arrivé et que là, on s'en va vers une destination claire et nette et que ça va être beaucoup plus facile maintenant d'identifier les responsables du succès ou des échecs parce que c'est clair que Luca Simone, c'est leur équipe et c'est eux les véritables directeurs sportifs de cette équipe.
C'est les directeurs sportifs, c'est les propriétaires, c'est les boss. Merci beaucoup, Nilton. On se parle bientôt. Bon match samedi soir.
Salut, à la prochaine.
Le voilà, Nilton George. On va aller à la pause. On a un Sport Flash. Puis au retour, notre question du jour dans le forum. Vos réponses par texto. On va en parler. On va parler du Canadien. Denis Gauthier qui s'en vient dans environ une douzaine de minutes. Journée des échanges, demain après-midi, 15h.